Deutsche Welle, magazine environnement.
Mesdames et messieurs, bonjour. Il y a 5 ans, le Japon a connu son pire accident nucléaire. Un séisme suivi d'un tsunami qui a dévasté la centrale nucléaire de Fukushima. Aujourd'hui encore, la région est soumise à une extrême radioactivité. Également, nous ferons un tour en Casamance au Sénégal pour parler de la préservation des forêts de la région.
Aussi en Casamance, c'est la forêt, le bois sacré, les grandes réunions et les fruits. Tout est dans la forêt. Il nous faut préserver cette forêt. Il nous faut préserver la biodiversité, l'écosystème ici en Casamance.
Mesdames et messieurs, bonjour. Kosivitiasu au micro. Le Japon a commémoré le 11 mars dernier la catastrophe nucléaire provoquée par un séisme suivi d'un tsunami il y a exactement 5 ans. C'était dans le nord-est de l'archipel. 5 ans après, 2 réacteurs de la centrale, dont les cœurs ont fondu au moment de l'accident, doivent encore être continuellement refroidis et le déblayage aux alentours se poursuit pour diminuer les radiations. Le cauchemar n'est donc pas terminé. Les précisions d'Émilie Ginestou.
5 ans après le drame de Fukushima, les radiations ne sont toujours pas maîtrisées et des données statistiques fiables manquent afin d'en évaluer l'impact réel. Une seule certitude, 80% de la fuite provenant du cœur du réacteur a touché la mer. Pourtant, le gouvernement ne semble pas en avoir tiré les leçons nécessaires. Un constat qui révolte les écologistes, à l'image d'Angelika Clausen, membre de l'Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire.
Jusqu'à présent, beaucoup de choses ont été négligées. Aucun registre détaillé n'a été dressé pour les groupes contaminés, pour les liquidateurs, la population évacuée et la population contaminée. Il n'y a pas non plus d'examen de santé régulier effectué sur place qui nous permettrait de récolter des données de base et de poursuivre les recherches. On ne peut pas faire de recherche sans données.
Certaines études recensent au moins 150 cas de cancer de la thyroïde chez les enfants de Fukushima. Seules des études poussées pourraient déterminer si la radioactivité en est bel et bien la cause. Mais la société et le gouvernement japonais s'occupent peu des victimes de Fukushima. De l'avis de Heinz Smital, de l'organisation Greenpeace, le gouvernement préfère passer ses faits sous silence.
Le gouvernement s'efforce de dire que l'état normal a été rétabli. Il veut remettre les centrales nucléaires en service et ne veut pas entendre parler des nouvelles de Fukushima.
Selon Shinzo Abe, l'actuel Premier ministre du Japon, le pays ne peut se passer du nucléaire. Actuellement, 43 réacteurs nucléaires sont potentiellement exploitables au Japon, contre 54 avant l'accident de Fukushima. 2 autres réacteurs avaient été redémarrés, mais la justice japonaise vient d'ordonner leur arrêt.
Peut-être que le Japon a tiré des enseignements de ce drame. Un tribunal japonais a ordonné la semaine dernière l'arrêt de 2 réacteurs nucléaires pour raisons de sécurité. Mais pour Shinzo Abe, l'actuel Premier ministre, le pays ne pouvait se passer du nucléaire. Un avis que ne partage plus Naoto Kan, chef du gouvernement au moment de la catastrophe.
Jusqu'au 11 mars 2011, j'étais convaincu qu'une catastrophe nucléaire comme Tchernobyl était impensable au Japon, parce que la technologie japonaise est des plus performantes. J'avais même conseillé à d'autres chefs d'État et de gouvernement d'investir dans des centrales nucléaires japonaises. Mais quand j'ai réalisé que le Japon n'a pas pu évacuer 50 millions de personnes en se fiant au hasard de la direction du vent, j'ai changé d'avis. Dans l'intérêt de nos enfants et de nos petits-enfants, mais aussi dans l'intérêt de toute l'humanité, nous devrions renoncer à l'énergie atomique.
À Fukushima et dans les régions touchées par la radioactivité, plus nombreux encore sont les foyers privés d'électricité et d'eau courante 5 ans après l'accident nucléaire. L'aide leur parvient difficilement en raison des dégâts subis par le réseau routier. A-t-on vraiment appris de Fukushima? Et quelle est la tendance aujourd'hui en Afrique et surtout dans un pays comme la République démocratique du Congo? La réponse de l'écologiste congolais René Ngongo au micro de Fréjus Kenom.
La catastrophe de Fukushima, ça a été aussi une occasion pour nous, Africains, de voir les méfaits de l'énergie nucléaire. C'est vrai que la tendance est d'aller vers cette énergie parce qu'on dit elle est la moins chère. Mais nous avons suivi tous les débats autour du nucléaire. D'ailleurs, dans beaucoup de pays qui sont suffisamment impliqués dans l'énergie nucléaire. Et je pense que c'est un exemple que l'Afrique ne veut pas se permettre de suivre parce que non seulement il y a ces risques liés à la pollution, mais les dégâts sont là. La sécurisation de ces centrales, un pays comme le Japon n'a pas réussi à le faire. Je vois mal les pays africains s'engager dans cette énergie aussi dangereuse. Et nous profitons de cette occasion pour dissuader tous les pays africains qui veulent se lancer dans cette énergie parce que nous avons des alternatives, notamment avec l'énergie solaire, mais aussi avec l'énergie hydroélectrique qui est disponible en Afrique. Dans des pays comme la RDC, nous avons les barrages d'Inga qui peut approvisionner pratiquement toute l'Afrique. Donc, nous avons des alternatives qui sont là. Je ne vois pas pour quel intérêt nous allons nous encombrer avec cette énergie qui est décriée partout dans le monde.
On sait que l'énergie nucléaire n'est pas chose nouvelle en RDC, justement, que vous évoquez. Depuis les années 50, le Congo s'est doté de son premier réacteur nucléaire. Quel est le chemin parcouru jusqu'ici? Est-ce que, à votre avis, la RDC a fait une bonne expérience ou bien devrait tirer leçon et peut-être renoncer à prendre ce chemin?
En tout cas, la RDC, c'est vrai, c'était lancée, mais je dis les risques liés à l'énergie nucléaire. Il y a eu trop de pression pour qu'on abandonne cette énergie parce que nous avons en RDC effectivement d'autres potentialités, d'autres alternatives qui sont là, disponibles et moins chères. Et pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour parce que nous avons la conviction qu'avec ce que nous avons comme potentialité, non seulement avec Inga, mais avec ce qu'on a comme cours d'eau, avec des chiffres qui peuvent nous produire autant d'énergie, c'est pas vraiment à l'ordre du jour.
L'Afrique a de l'uranium, la principale matière première des centrales nucléaires. Sur le continent, le Kenya, le Nigeria ou encore l'Afrique du Sud sont tentés par cette source d'énergie.
Vous écoutez la Deutsche Welle.
Au Sénégal, dans la région casamançaise, les populations sont sensibilisées sur l'importance des forêts. Et c'est l'œuvre d'un natif de la région qui ne veut pas voir disparaître ce qu'il considère comme un héritage, les forêts verdoyantes de la région. Depuis plusieurs décennies, les forêts de Casamance subissent le poids d'une double menace, le trafic de bois précieux et les feux de brousse. Chaque année, des milliers de mètres cubes de teck ou d'ébène sont coupés illégalement dans la verte Casamance. Notre correspondant dans la région, Mamadou Alpha Diallo, est allé à la rencontre de celui qui s'est donné comme travail la sensibilisation des populations.
Le principal fléau qui menace aujourd'hui l'avenir de la Casamance est incontestablement la destruction sans répit de sa forêt. Les massifs forestiers qui caractérisaient naguère le paysage de la région sont en train de disparaître pour laisser la place à la savane. Mamina Camara, le président du conseil départemental de Bignona, situé à la frontière gambienne, ne veut plus rester un spectateur passif face à ce phénomène. Un combat qu'il a commencé par la tenue d'un forum pour conscientiser les populations.
Vous savez que dans la région de Ziyanchor, Bignona regorge le plus grand nombre de forêts. Ce qu'on voit quand on est sur la route, c'est la face visible de l'iceberg. Mais à l'intérieur, les forêts commencent à partir. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de léguer à nos petits-enfants cette Casamance déserte. Il faut qu'on se parle. Donc c'est pourquoi, même si ça peut coûter, il faut que les gens se parlent. Toutes les CIE ont été invitées. Tout le monde, les acteurs locaux, les acteurs au niveau des villages, pour qu'on parle connaissance, pour enfin que la forêt ne soit pas un lieu de massacre, mais que la forêt soit une parfaite complicité avec le citoyen du département de Bignona.
Mamina Camara indique que cette forêt doit être préservée car elle est d'une très grande utilité, aussi bien pour son bois et ses fruits que pour les cérémonies traditionnelles.
Tout effectivement, la sacralité aussi en Casamance, c'est la forêt, le bois sacré, les grandes réunions, ça se passe dans le bois. Et les fruits, tout est dans la forêt. Il nous faut préserver cette forêt, il nous faut préserver la biodiversité, l'écosystème ici en Casamance.
Sekou Koli, un habitant d'un petit village non loin de la frontière gambienne, souligne que les grands pilleurs de la forêt de leur zone viennent souvent de la Gambie.
Moi, je suis né dans un village près de la frontière gambienne. Si vous étiez dans la zone, vous verrez de vos propres yeux que presque l'environnement au sud du pays est complètement détruit. Et il me semble que la population des villages de long de la frontière n'y peuvent rien. Parce qu'ils viennent avec de gros véhicules, des moyens très sophistiqués, des tronçonneuses. Ils coupent n'importe quel arbre. Aujourd'hui, si vous vous rendez dans cette zone, vous avez envie de pleurer. On a plusieurs fois décrié cette situation. Personne n'intervient, personne ne dit mot.
Pour Hassan Diatta, un technicien des eaux et forêts travaillant dans une structure de défense de l'environnement, les cycles de sécheresse des années précédentes, avec la pauvreté qui s'en est suivie, font partie des facteurs qui ont entraîné la dégradation de la forêt en Casamance.
On a vu que les années 70-80, il y avait une sécheresse. Et cela a eu un impact sur les populations. Ils ont commencé à déforester, à couper les arbres pour cultiver le riz de montagne, qu'on appelle ici Angola et Tandak. Et on a remarqué qu'il y a des espèces forestières, fourriquières, que si ce paysan faisait la récolte, quand il vendait, ses revenus peuvent bel et bien dépasser la quantité et la valeur du riz que lui, il cultivait ici. Alors que ce n'était pas pour une seule année. Et chaque année, il pouvait gagner sur ses ressources naturelles qu'il était en train de couper. Donc, faisant cela avec des explications avec le paysan, il a compris qu'il ne faut pas, donc, il ne fallait pas donc couper et le laisser. Quand une espèce mûrisse, il va couper et il va vendre et il va se faire du riz. Vous voyez. Donc, avec la sensibilisation que l'on faisait et les reboisements, les populations ont commencé à comprendre et ne mettaient pas le feu, ils ne coupaient pas de manière anarchique les arbres. Parce que pendant l'hivernage, par exemple, les populations s'adonnent à la récolte de certaines espèces forestières, fourriquières, pour vendre et régler le problème alimentaire.
Le gouvernement du Sénégal, qui a décidé de prendre le taureau par les cornes pour zigler la déforestation dans le pays et particulièrement en Casamance, appelée communément la Verte Casamance pour ses massifs forestiers, vient de recruter 400 volontaires qui vont épauler les agents des eaux et forêts sur le terrain. Et plus de la moitié de ces recrues seront déployés en Casamance. Mamadou Alpha Diallo, Adjigan Sor pour la Dessouvelle.
Dans un Sénégal qui se désertifie, les forêts de Casamance sont d'un intérêt vital pour la biodiversité, l'agriculture et la lutte contre le réchauffement climatique. Était également au menu de ce magazine la situation à Fukushima au Japon, 5 ans après la catastrophe nucléaire. Merci de nous avoir suivis. Kosevitiasou au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.